Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour le 8e numéro de JT Sport. On ne change pas nos bonnes habitudes et on traite de l'actualité des sportifs toulousains. Pour m'accompagner lors de ce deuxième épisode de 2020, Marine Clette. Bonjour Marine.
Salut Clément, bonjour à toutes et à tous. À nos côtés ce soir, l'équipe traditionnelle.
Alors, puisqu'on ne se connaît pas, tous les nouveaux, présentez-vous.
Nouvelle victoire pour le Stade toulousain ce week-end. Victor et Florent débriefent pour nous la rencontre contre l'Union Bordeaux-Bègle. Envolés, Adrien et Capucine reviennent sur la victoire sans appel 3-0 des Spacers sur le Gazélec Ajaccio. Adrien restera avec nous pour nous proposer un podcast tout en acrobatie. Il nous expliquera ce qu'est le Chase Tag avec les champions du monde toulousains. Et pour finir, Maud nous présentera le Flash Sport en fin d'émission.
Allez, pour démarrer, notre rubrique Caramel et Chistera.
Donc on se tait et on reste concentré sur ce jour.
Toulouse s'est offert l'UBB dimanche à Ernest Vallon sur le score de 22-14. Trois essais et une victoire dans ce derby de la Garonne qui permet aux Rouges et Noirs de se classer sixième. Avant un déplacement compliqué au Racing mi-février, Florent, Victor, vous étiez en tribune, il fallait le gagner ce match.
Ouais, c'était un match super important. Bon, c'était le leader qui se déplaçait à Ernest Vallon. L'UBB, c'était 11 matchs consécutifs sans défaite jusque-là. Donc c'était vraiment un match important et puis vraiment pas gagné sur le papier.
Ouais, après on a pu voir des Toulousains qui sont rentrés très très bien dans leur rencontre. Ils ont fait 20 premières minutes de folie avec du jeu. Il y a eu énormément d'aspects défensifs très bons. Au grattage, ça a été excellent. On a vu Jérôme Quesneau récupérer quelques ballons assez chauds et soulager ses coéquipiers. C'est vraiment intéressant. Après, malheureusement, ça s'est un peu calmé. On a perdu un petit peu le fil peut-être du match. Mais sur les 20 premières minutes, on a vraiment vu le Toulouse très très impressionnant l'année dernière.
Moi, je suis d'accord. Après les 20 premières minutes, là, on avait 3 essais au bout d'un quart d'heure. Bon, un jeu fantastique. On s'est cru il y a 2 ans, là, quand l'UBB était revenu sur le stade toulousain, mais au final, Toulouse avait quand même emporté. Après, bon, oui, c'est vrai que ça a été plus compliqué dans le jeu, mais honnêtement, le stade toulousain a clairement dominé les débats.
Ouais, il y a un joueur qui s'est démarqué pendant cette rencontre. Un essai, une passe décisive au pied. Votre homme du match, c'est Ramos.
Ah oui, complètement. Il a été exceptionnel. Au poste d'ouvreur pour la première fois de la saison, il me semble. Bon, dès la troisième minute, il fait une passe décisive au pied millimétré pour Placine. Et puis derrière, il a été fantastique. Il a mis du rythme. Quand il fallait mettre du rythme, il a su gérer la maîtrise de son équipe. Enfin, je l'ai trouvé merveilleux.
Ce qui est vraiment drôle avec Ramos au final, c'est qu'à chaque fois qu'on le voit depuis le début de la saison cette année à l'arrière, on le voit moins tranchant dans ses courses, moins décisif aussi au pied. Sauf que là, on a l'impression que dans son poste de numéro 10, il est transfiguré. Ses courses sont beaucoup plus incisives. Il arrive à percer les défenses, comme sur son essai d'ailleurs, où il a été absolument, absolument incroyable. Beaucoup de bons choix, il alterne bien au pied le jeu. Il va bien suppléer Romain Tamac pendant le tournoi destination, qui lui ne sera pas là vu qu'il est avec l'équipe de France.
Ouais, puis ce qui est impressionnant, c'est qu'il est, enfin moi je trouve ça, il a une force de caractère assez incroyable. Enfin, il a été recalé ce week-end un peu par surprise encore une fois des 28 bleus pour le 6 nations. Ça avait été déjà le cas à la Coupe du Monde où il avait des soucis, il a dû revenir à Toulouse. Et à chaque fois qu'il revient, là c'est un match compliqué. Il est 10 pour la première fois de la saison et il arrive à être performant une nouvelle fois. Enfin, il y a rien à dire. Fantastique.
Ouais, donc on verra si cette force de caractère et ce pied justement manquent à l'équipe de France pendant le 6 nations.
D'ailleurs, Marine, le tournoi démarre dimanche pour les Français. C'est le 15 de la Rose qui vient affronter les Bleus au Stade de France dimanche.
Ouais, tout à fait, c'est ça. Une grosse équipe d'Angleterre. On peut les connaître. Ils sont vice-champions du monde. Ils ont fait une énorme Coupe du Monde. Ils ont absolument écrasé la Nouvelle-Zélande en demi-finale avant de s'effondrer en finale contre les Sud-Africains. Maintenant, on sait qu'ils sont un peu dans la tempête avec l'affaire des Saracens où il y a pas mal de joueurs internationaux comme Owen Farrell ou même Mako Vunipola qui sont un petit peu peut-être à l'esprit ailleurs, sachant qu'ils ont appris la relégation des Saracens en deuxième division. Donc est-ce qu'on va avoir une grosse équipe d'Angleterre? Oui, peut-être l'esprit préoccupé, mais ce qui est plus inquiétant, c'est sur le cas de l'équipe de France.
Ouais, bon après ça va être l'occasion de tester cette équipe hein, jeune avec une charnière normalement 100% toulousaine, c'est Dupont et Tamac normalement en charnière. Donc ça va être l'occasion de tester ces jeunes, le nouveau staff, voilà, tout va se mettre un peu en forme. Donc je suis pas super positif non plus parce que je pense que ça va être vraiment un premier match un peu comme ça de test.
Surtout que là, on va dire que l'équipe de France enchaîne vraiment les coups de ouais, malchance au final, puisqu'il y a Bernard Leroux, on vient d'apprendre qu'il y a un petit souci pour lui, donc peut-être qu'il ne sera pas là. Il y a plusieurs joueurs qui se retrouvent mis sur le carreau.
Camicha.
Beaucoup de forfaits, ouais, Camicha. C'était le talonneur titulaire, le remplaçant de Guirado.
Ouais.
On appelle Teddy Bobigny. Et pas Peato Movaca aussi, pour faire un petit peu dans le chauvinisme, mais cette équipe de France perd beaucoup, beaucoup d'éléments. Il y a aussi de nouveaux joueurs comme Awas qui risque d'être titulaire au poste de pilier. Donc il y a vraiment beaucoup d'interrogations et on va voir ce que ça va donner à cette première.
Moi je suis pas très positif sur le score parce que je pense que les Anglais sont en pleine bourre et qu'on est encore un peu jeune et que là on va se tester quoi. C'est une nouvelle équipe de France pour moi, donc je pense qu'on verra plutôt plus tard, mais là je pense qu'on va perdre ce week-end.
Vraiment, la seule chance qu'on a contre eux, c'est qu'ils nous rient au nez en train de match et qu'on les surprenne. C'est la seule chance qu'on peut avoir, parce qu'à part ça, je vois pas comment on peut battre les Anglais qui sont vraiment au-dessus de nous.
Pas très optimiste, les gars, pour ce week-end. Florent, tu nous fais un petit point sur la Pro D2 ?
Ouais, tout à fait, avec Colomier qui s'arrête pas du tout, encore une fois, ils dominent vraiment leur sujet. Ils ont encore gagné ce week-end à domicile contre Vannes 23-7, ce qui fait qu'ils passent de la 3e à la 2e place du classement, ils profitent de la défaite de Perpignan. C'est une très bonne nouvelle pour les Colomérains, maintenant ils sont bien placés pour viser les deux premières places et donc qualification en demi-finale. Et pourquoi pas, est-ce qu'on peut rêver d'un petit derby Toulouse-Colomiers pour l'année prochaine en top 14 ? Ça, on le verra un peu plus tard, c'est peut-être un peu tôt pour en parler. Montauban qui perd et Carcassonne qui, ont vu leur match, les Carcassonnes, ont vu leur match qui a été reporté à cause de la tempête. Il risque de se jouer fin mars, normalement, selon la Ligue. La semaine prochaine, Oyonnax viendra à Montauban et Carcassonne aura un difficile déplacement à l'USAP. Est-ce que Colomiers va, lui, se déplacer à Valence chez le promu de cette année ?
Et un drame dans le monde du rugby dimanche matin.
Ouais, alors là, c'est un petit peu la mauvaise note du week-end hein, quand même. Il y a le pilier de Groyer, Beka Burdjashvili, pardon si j'ai écorché son nom, qui est décédé dimanche matin dans un accident de la route.
Tragique.
Ouais, tragique. Il a perdu le contrôle de son véhicule au niveau de la commune de Lamillaré. Il avait 27 ans, il était à peine revenu dans le club tarnais cette saison. Il avait fait une petite escapade de 2 ans à la Seyne-sur-Mer. Il jouait avant ça, il avait joué 3 saisons à Groyer. Maintenant, ce décès, ça a entraîné le derby entre Groyer et Lavaur. C'était vraiment un derby qui était très attendu dans la région. En Fédéral 1, c'est souvent des matchs qui sont... On connaît le rugby amateur, c'est des choses qui sont très importantes pour les petits villages. On ne sait pas quand il sera reporté encore. Il y a une minute de silence qui a été respectée dans plusieurs stades de la région, à Gaillac par exemple. Voilà, il y a une cagnotte qui a été lancée aussi pour aider sa famille et sa compagne qui est notamment en France pour un peu les aider à payer les obsèques.
Ok, merci Victor, merci Florent. Maintenant, on jette la balle ovale pour le ballon de volée. C'est l'heure de la rubrique Smatch et Bidouille.
Ce qui n'arrive dans aucune équipe.
Ouais, c'est ouf.
Victoire facile pour les Spacers ce samedi. Les Toulousains l'ont emporté 3-7-0 face au Gazélec Ajaccio. 3 jours seulement après avoir battu Montpellier, les hommes de Stéphane Sapinard ont fait le plein de confiance. Adrien et Capucine, tous les feux sont ouverts pour nos volleyeurs, c'est ça ?
Oui, en effet, après une fin d'année compliquée, ils sont bien de retour et gonflés à bloc. Si on fait un retour sur leur semaine, les Spacers ont remporté une belle victoire face à Montpellier en 4-7, 3-7-1 pour cette 16e journée de championnat. C'est une victoire assez surprise face à une équipe qui est 3e au classement de Liga. Les Toulousains, eux, passent 7e au classement. Ils ont ensuite enchaîné samedi avec une victoire à domicile face à Ajaccio en 3-7. Match qui se joue au Palais des Sports, à guichet fermé. Les entrées étaient gratuites et retransmises à la télé. Plus de 2000 spectateurs ont répondu présents pour cette belle affiche de championnat et le but était de sensibiliser au volley à Toulouse avant la réception du Final Four qui est la Coupe de France de volley et qui se jouera, on le rappelle, à Toulouse les 13 et 14 mars prochains. En ce qui concerne la performance des Spacers, on a vu un beau collectif et une belle qualité de service.
Ouais, il y a un joueur qui vous a marqué, Adrien Capucine, lors de ce dernier match, le Canadien Dany. Il réagit au micro de JT Sport.
C'est juste d'être dans le bon endroit, dans le bon temps. On savait un peu ce que l'autre équipe faisait, alors il y a aussi un peu de la chance, mais c'est bien d'avoir la chance. Des fois, on travaille pour être bien tout le temps, et des fois, quand tu fais du bien dans les moments très importants, ça te fait très contente.
Bah oui, justement, un bon match de Dany. Il a marqué 11 points lors de ce match-là. Il y a Desrouillons aussi qui a marqué 11 points. Et c'est une performance collective vraiment bonne, que ce soit notamment, par exemple, je prends au niveau des points faibles, au niveau des services. Souvent, on voit qu'ils faisaient pas mal d'erreurs et là, ils ont relancé par pas mal d'ace, pas mal de bons points comme ça. Aussi, il y a eu Oscar Madsen qui remplace toujours Jorna, qui est toujours blessé, qui a fait une très belle prestation. Et il y a eu les rentrées de Louis Pino et de Lucas Snolder, auteur d'un ace quand il est rentré, qui ont parfaitement fonctionné aussi. Au niveau du match, c'est surtout le deuxième set qui a été accroché, puisqu'Ajaxu a vraiment bien démarré le deuxième set. Et heureusement, les hommes de Stéphane Sapinard ont su réagir. Et puis le troisième a coulé aux sources, puisque les Corses ont vraiment accusé le coup de la perte de ce set-là.
Oui, Adrien, la semaine était belle, mais tout n'est pas encore parfait pour Stéphane Sapinard, l'entraîneur.
Même si sur le troisième set, je pense qu'on peut faire beaucoup mieux que ça, parce qu'il y a trop d'erreurs sur des situations qui nous sont vraiment favorables et qui nous auraient permis de mettre un écart plus important sur le troisième set. Ah, il y a beaucoup d'erreurs de jeunesse. Hein. Il y a de l'empressement, il y a le ballon de Pierre. Pierre, il voit le ballon arriver dans le filet. Il veut faire un peu le malin en faisant un petit geste, mais finalement, le ballon prend le filet et lui amène le filet dans la main. Tout ça, c'est des points sur notre service qui font qu'au lieu d'être à 25-21, on serait peut-être à 25-18. Je travaille avec ça et en même temps, la jeunesse qu'il y a dans l'équipe, elle est aussi hyper intéressante, elle est enthousiasmante. Donc, il y a bon côté, mauvais côté. Il faut essayer de gommer certaines petites choses.
Bon, le prochain match, ça va être compliqué sans être chauvin parce que c'est face à Rennes, mais parce que c'est les leaders. Ils ont fait 14 succès consécutifs avant d'avoir eu 2 défaites. Ils ont gagné le dernier match contre Poitiers et ils sont leaders solides avec une avance de 3 points. Et je pense qu'ils ne comptent pas perdre à domicile le match.
Et pour cette prochaine rencontre, on espère le retour du capitaine Jorna, qui est indisponible, je vous le rappelle, depuis quelques matchs à cause d'une cicatrice sous le bras. Reste à voir après qui de lui ou qui de Oscar Madsen, qui le remplace, gardera le rôle de leader de l'équipe.
Ça va pas être facile à Rennes. Merci à tous les deux. Adrien, reste avec nous. On va écouter le podcast que tu as fait cette semaine. Deux Toulousains, Loïc, Georgie et Ben Elouafi. Ils sont champions du monde de chase tag. Ce sport est un dérivé du jeu du chat pour les professionnels. On vous explique tout, un travail d'Adrien Marchand.
Avez-vous déjà joué au jeu du chat ou du loup dans la cour de l'école ? C'est le passe-temps emblématique des enfants, et les Français en sont champions du monde. Ça peut faire sourire, mais ça ressemble à des yamakasi. Le jeu s'appelle le chase tag. Dans une structure, le quad, ressemblant à des échafaudages, deux équipes de 5 joueurs s'affrontent. À tour de rôle, chaque équipe envoie un athlète en duel. Le chat possède 20 secondes pour toucher la souris avec la main. Et si le chat attrape la souris, il devient à son tour l'appât. Pour marquer un point, il faut que la souris s'échappe. Et ça demande des qualités. Rapide, intuitif et surtout stratège. Pour piéger malicieusement son adversaire. Pour le reste, Loïc Georgie, champion du monde en titre, vous raconte ce qu'il en est durant les 20 secondes de poursuite.
Au moment où le speaker dit « athlete ready », il le crie très fort, c'est devenu un truc type. Le cœur monte un peu, la tension monte, on a l'adrénaline qui arrive. Et quand on est chat, on n'a qu'une chose pour cible, c'est aller absolument toucher la souris. On a 20 secondes pour ça, ça va très vite. Et donc les sens sont en éveil. Au moment où on est en train de courir dans le quad, puisque c'est le nom de la surface de jeu, quand on est en train de courir dans ce quad-là, les secondes sont à la fois très longues et très très rapides. 20 secondes d'un sprint, imaginez Usain Bolt qui court 20 secondes, c'est très long. Et là, on est sur du cardio, ça va très très vite, c'est du sprint. On n'a pas le temps de respirer, on essaye d'éviter les barres et les plateformes tout en suivant un adversaire. Donc c'est un jeu très contraignant et très prenant à la fois. C'est spectaculaire et difficile.
Chat et souris, la stratégie n'est pas la même dans le quad.
Quand on est chat et quand on est athlète ready, d'un coup on devient comme un félin en chasse, c'est-à-dire qu'on a une proie, on a un objectif et que quoi qu'il arrive, il ne faut pas le laisser filer. Quand t'es la souris, tu essayes de lire dans les yeux de ton adversaire comment est-ce qu'il va essayer de t'attaquer pour trouver une solution pour s'échapper. Quand on est souris, effectivement, le temps passe beaucoup plus lentement parce qu'on a l'impression que les 20 secondes vont jamais se terminer. C'est-à-dire qu'on est en train de courir et puis on voit l'adversaire qui se rapproche par moment et puis on arrive à remettre un peu de distance et puis il se re-rapproche. On essaye de se cacher comme on peut derrière chaque obstacle. Et puis on attend qu'une chose, c'est que enfin le gong sonne pour dire 20 secondes sont écoulées, mais ça arrive très rarement, on est souvent touché avant. Les évasions sont rares.
Mais laissons-nous de côté les explications et plongeons dans l'arène. Nous allons vous mettre dans la tête d'un des participants. Imaginez-vous en finale des championnats du monde. Vous venez d'attraper votre adversaire et vous devenez souris pour la dernière manche. Le score est toujours vierge. 20 petites secondes à tenir. En évitant votre adversaire et le titre est pour vous, pour votre équipe. Vous tentez de récupérer au maximum. Le cœur bat fort, le souffle court. Vous êtes déterminé.
Athletes ready!
Vous êtes tenté par ce sport ? Ce n'est quand même pas sans risque.
Oh, that hurts ! That hurts !
Les blessures et chutes y sont fréquentes.
Les blessures les plus communes, c'est les bleus, c'est les entorses, c'est les chocs sur une barre, ça peut être n'importe où, hein. Ça peut être dans le cas de Charles, il s'est pris une béquille sur la cuisse, moi j'avais une béquille sur le mollet, il y en a qui se prennent des gros chocs dans les côtes par exemple, ou des chutes, hein, ça arrive, c'est des gamelles, c'est des barres et des plateformes, donc quand on fait un sprint au milieu de tout ça, bah, ça arrive d'en prendre une quelque part dans la gueule.
Un peu d'histoire maintenant.
Le chest tag a été créé en 2011 par Christian Devaux, en y jouant avec son fils dans son jardin. Au fur et à mesure, ils y ont à rajouter des obstacles. Le sport a pris toute son ampleur lorsqu'un groupe emblématique de parcours, Storer, a fait une démonstration sur YouTube. Depuis 2014, le championnat du monde se déroule chaque année.
Côté sponsor, c'est un peu moins spectaculaire que le sport en lui-même.
C'est encore compliqué de trouver des sponsors pour l'instant sur ces disciplines-là, puisque c'est une discipline très récente. Donc très peu de sociétés veulent se mouiller et prêter de l'argent pour des marques ou par des modèles qui ne sont pas encore trop connus. Mais ça se développe fortement. Le chase tag est une discipline en pleine évolution et je pense qu'elle va faire parler d'elle dans les années à venir.
Le chase tag va sûrement grandir et prendre son envol l'année prochaine. D'autant plus que des marques s'intéressent fortement à la compétition internationale, le World Chase Tag.
Merci beaucoup pour ce reportage, Adrien. Alors, c'était comment un trap-trap version parcours ?
C'est hyper impressionnant. Moi, je vous conseille d'aller voir les images sur Internet. Vous pouvez regarder la demi-finale entre la Team United, du coup, c'est la team de Loïc Georgie, et de Ben, les deux Toulousains qui ont remporté l'épreuve face à la Team Blacklist. Et c'était un duel franco-français et c'est vraiment hyper impressionnant, que ce soit à la vitesse à laquelle ils vont, à laquelle ils courent. C'est comme des vidéos de parcours qu'on voyait toi en toi, sauf que c'est deux mecs qui essayent de s'attraper. Donc
Ok, la semaine prochaine, on te retrouve aux côtés de Lilou Ruel, une future championne de freerun.
Ouais, exactement.
Super, c'est au tour de Mode de nous rejoindre. C'est l'heure du Flash Sport. Un hommage pour la légende Kobe Bryant qui nous a quittés dimanche. Il était une icône, une idole. Il a bercé les enfants nés dans les 90s par ses dribbles, ses 33 643 points, son sourire. Figure des plus belles années des Lakers, Kobe incarne ce qu'il y a de plus grand dans le sport en termes de performance et de palmarès. Merci, monsieur Kobe Bryant, pour tout ce que vous avez apporté à tous ceux qui vous aimaient.
Oui, on partage ta tristesse, Clément, mais il s'est aussi passé de belles choses outre-Atlantique cette semaine. Perrine Laffont s'est à nouveau imposée en Coupe du Monde de ski de bosse au Canada samedi. Avec un très bon chrono et des figures maîtrisées, elle a largement devancé la concurrence sur la piste du Mont-Tremblant lors de cette troisième étape de Coupe du Monde. La skieuse ariégeoise ne s'arrête plus. Après 4 victoires en 4 courses, elle domine la compétition et est actuellement première du classement général. A noter également la belle performance de Benjamin Cavé chez les hommes. Le skieur français s'est placé sur le podium en terminant 3e. Autre sportif local à avoir brillé ces derniers jours, Simon Gauzy s'est qualifié avec l'équipe de France de tennis de table au JO de Tokyo 2020 en battant la Slovaquie vendredi soir 3 manches à 3. Actuellement 21e mondial, le jeune Toulousain est le meilleur pongiste tricolore et il devrait jouer en équipe et en simple à Tokyo. On continue sur les sports de raquettes avec l'Open d'Australie qui se poursuit. Les quarts de finale se joueront mercredi. Stanislas Wawrinka sera opposé à Alexander Zverev et Rafael Nadal à Dominic Thiem. Côté national, la nouvelle est tombée il y a quelques heures. C'est Guillaume Gilles qui remplacera Didier Dinard, actuel entraîneur de l'équipe de France de handball. Il était son adjoint depuis 4 ans et aura comme premier objectif de qualifier les Bleus pour les JO. Ils disputeront un tournoi de qualification à Paris mi-avril. Le nouveau sélectionneur choisira dans les prochaines semaines un adjoint et un préparateur physique pour remplacer les fonctions qu'il occupait jusqu'à présent.
Merci donc Maude pour ce tour des sports et merci à toi Clément pour m'avoir accompagné ce soir.
Avec plaisir Marine et merci également à Lise et Hugo à la technique. N'oubliez pas que vous pouvez nous retrouver et nous réécouter sur toutes les plateformes d'écoute sur le compte Twitter de JT Sport. On vous donne rendez-vous en février pour la prochaine émission. Bonne semaine sportive à vous tous. We'll be right back.